I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris aura lieu le vendredi 26 juillet 2024 à partir de 19h30. Pour la première fois, elle ne se déroulera pas dans un lieu fermé, un stade, mais à l'extérieur, au cœur de la capitale, sur et aux abords de la Seine. Plus de 10 000 athlètes doivent notamment parcourir une portion du fleuve en bateau. Ce défilé-spectacle, complètement inédit, oblige les organisateurs et les autorités à penser à un dispositif de sécurité jamais mis en place auparavant. Ils sont confrontés depuis des mois à de nombreux obstacles qui les forcent parfois à revoir leur copie. Cet épisode de Code Source est raconté par trois journalistes du Parisien, Sandrine Lefebvre et Romain Baheux du service des sports et Pauline Darvet de l'édition de Paris. Sandrine Lefebvre, tous les 4 ans, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est l'un des événements télévisés les plus suivis à travers la planète. Est-ce que vous vous souvenez d'une ou de plusieurs cérémonies qui vous ont marqué ?
Celle qui m'a marqué le plus, moi personnellement, c'était ma première, c'était en 2012 à Londres. Parce que là, on était dans ce stade qui était tout neuf, ce stade olympique de Londres, et ils nous ont offert un spectacle qui mêlait l'histoire de ce pays et la pop culture. Donc on était vraiment dans le spectacle musical dans les années 80.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Puis il y a ce moment aussi absolument fabuleux de la reine Elisabeth quittant Buckingham et qui arrive au stade olympique en hélicoptère avec James Bond. Donc ça, c'est le moment le plus fantastique de cette cérémonie.
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale, le Duc d'Édimbourg.
Une cérémonie d'ouverture, c'est toujours un événement très important pour le pays qui l'organise.
C'est l'événement qui lance les Jeux Olympiques. C'est à partir de là, on a tendance à dire que on oublie toutes les critiques, parce que en amont des Jeux, on parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de transport, on se demande si les sites seront prêts. Et au moment où la cérémonie débute, là, on est dans les Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater, puisque si la cérémonie n'allait pas de tout le monde, on se dit que les Jeux vont être absolument dingues.
Vous allez nous raconter à la fin de ce podcast ce que l'on sait du déroulé du grand spectacle prévu le vendredi 26 juillet 2024. Mais d'abord, on va voir comment ce projet a dû être peaufiné et modifié au fil des mois. Au départ, en septembre 2017, lorsque Paris est officiellement désignée comme ville hôte des Jeux de 2024, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont imaginées au Stade de France à Saint-Denis. Ce n'est que plus tard que le bruit court qu'elles pourraient finalement se dérouler ailleurs.
C'est toujours dans un stade qu'elles ont lieu traditionnellement parce que c'est le plus simple à organiser. On s'est tous dit forcément ce sera au Stade de France. Tony Stanguet, le patron des Jeux, a l'habitude de dire qu'il a envie de casser les codes. Donc très vite, l'idée de faire quelque chose de différent des autres Jeux naît et apparaît cette idée de faire la cérémonie ailleurs qu'au Stade de France. Et quoi de plus beau que de la faire au cœur de la ville ? Et au cœur de la ville, c'est dans Paris, au bord de la Seine.
En coulisses, ce projet fait l'objet de nombreuses discussions. Certaines parties sont pour et d'autres beaucoup plus réservées.
Quand on commence à évoquer cette cérémonie sur la scène, il y a effectivement les craintes sont pour ceux qui opèrent d'habitude les événements, et notamment les forces de sécurité. Parce qu'on parle, au tout début, on parle quand même d'un million de personnes autour de la scène, donc on commence très vite quand même à y avoir des inquiétudes. Alors, autant les porteurs du projet à Paris 2024 sont complètement enthousiastes, autant effectivement il y a des freins au niveau de la préfecture.
Romain Baheux, à l'été 2021, fin juillet, le président Emmanuel Macron, en déplacement au Japon, dévoile les contours de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 à nos confrères de l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Eh bien, il annonce qu'elle sera sur la Seine, donc en plein cœur de la capitale. Il annonce un spectacle ouvert à tous, populaire, quelque chose qui montrera la France, qui montrera Paris, donc quelque chose d'historique et d'exceptionnel. Et une fois que le président de la République l'a annoncé, eh bien, c'est très compliqué de revenir en arrière.
5 mois plus tard, le 13 décembre 2021, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, annonce le programme, un show autour du fleuve et des grands monuments de Paris et un défilé de plus de 10 000 athlètes à bord d'une centaine de bateaux sur la Seine. Romain Baheux, ça c'est du jamais vu.
C'est en effet complètement inédit. On nous annonce à cette époque-là quelque chose de fastueux, quelque chose d'hors norme. Et là, on entre vraiment dans le concret, c'est-à-dire combien il faudra de bateaux, combien il y aura de personnes au bord de l'eau, comment ça va se passer, le déroulé. Il y a encore des points à soulever, il y a encore beaucoup de mystères, mais en tout cas, il y a le scénario de la soirée qui se dessine. Et en effet, ça s'annonce comme quelque chose de complètement dingue, il faut le reconnaître.
À ce moment-là, combien de spectateurs sont attendus et où est-ce qu'ils doivent être placés ?
On évoque 600 000 spectateurs directement, on va dire, au bord du fleuve. Alors, il y a deux catégories de spectateurs. Il y a les spectateurs payants, qui sont environ 100 000, qui, eux, sont, en gros, plus près du fleuve. C'est eux qui vont le mieux voir le spectacle, parce qu'ils sont vraiment au bord de l'eau. Et puis, il y a les spectateurs gratuits, qui, eux, sont sur la partie supérieure des quais de la Seine, qui seront debout, qui auront donc une moins bonne visibilité, et qui seront un peu plus loin du fleuve, et donc de la cérémonie d'ouverture.
Pauline Darvet, 600 000 personnes le long des quais, ça pose tout de suite beaucoup de questions aux autorités.
Oui, alors c'est vrai que Paris est une ville très dense, qui a l'habitude d'accueillir des événements d'ampleur. Mais là, c'est vrai que 600 000 personnes le long de ces 6 km de Seine, c'est un chiffre important. Et il y a tout de suite des discussions assez tendues entre les organisateurs et la préfecture de police de Paris, notamment sur le sujet. Il y a la question des transports, il faut trouver le moyen d'acheminer ces 600 000 personnes sans engorger les métros notamment. Il y a aussi la question des périmètres de sécurité, il faut réussir à filtrer les accès. Il y a aussi la question des spectateurs dits gratuits, donc qui seront sur les quais hauts, et les spectateurs payants qui, eux, auront accès aux quais bas. Donc il faut trouver des moyens distincts de les faire accéder à ces deux endroits, et donc ça aussi, ça fait partie des problématiques.
Le metteur en scène Thomas Joly, qui a adapté la troisième version de Starmania, est choisi en septembre 2022 comme directeur artistique des cérémonies. Le tout est orchestré par un homme qui s'appelle Thierry Reboul. Sandrine Lefebvre, qui est cet homme ?
Thierry Reboul, c'est un ancien patron d'une boîte de communication, Ubi Bene. C'est lui déjà qui, au moment où Paris était encore candidate à l'organisation des Jeux, avait organisé cette piste d'athlétisme sur la Seine. Donc déjà, c'était un petit peu les prémices, un petit peu de ce qu'on pourra voir le 26 juillet. Il avait fait un truc dingue, il avait mis une piste avec du tartan. Et il y avait même Marie-Josée Perret qui avait couru dessus. Le président Macron, qui venait juste d'être élu, était venu aussi sur cette piste d'athlétisme. Thierry Reboul, c'est quelqu'un d'un peu dingue. Et il est surtout l'homme qui parle à l'oreille de Tony Estanguet.
On fait un saut dans le temps, Sandrine Lefebvre, au printemps 2023, fin avril, vous embarquez sur un bateau sur la Seine avec Tony Estanguet pour assister à des préparatifs de la cérémonie et il vous en dit plus sur les bateaux qui vont naviguer le soir du défilé.
Alors ce jour-là, on est sur le paquebot. Alors on ne le sait pas encore, mais le paquebot, c'est le bateau qui transportera la délégation tricolore le 26 juillet. Donc on est là, à bord de ce bateau, et puis on est avec plein de bateliers, puisque l'idée aussi, c'est d'expliquer qu'ils ont enfin trouvé un accord avec tous les armateurs, avec tous ceux qui vont prêter leur bateau pour la cérémonie d'ouverture. Il y a certes les fameuses péniches qu'on voit tous sur la Seine. Il y a différentes sortes de bateaux. Il y a des petits bateaux qui vont transporter entre 20 et 30 personnes, et puis des bateaux beaucoup plus volumineux, comme le paquebot, qui va accueillir 500 personnes le soir de la cérémonie.
Pauline Darvet, autant de bateaux en même temps sur la Seine, est-ce que ça nécessite des aménagements particuliers ?
Alors, il faut notamment déménager quelques péniches, au moins une vingtaine, donc aux abords des ponts d'Iéna et de Bir Hakeim. Donc, pendant 2 ou 3 semaines, ces bateaux, qui sont tous des bateaux d'habitation, donc qui n'ont pas d'activité commerciale, vont devoir quitter leur port d'attache. Donc, il y a toute cette question du déménagement un peu forcé de ces bateaux-là.
Romain Baheux, à ce moment-là, on ne parle plus de 600 000 spectateurs attendus sur les quais, mais entre 450 000 et 500 000. Pourquoi est-ce que la jauge a été abaissée ?
Il y a une petite musique qui commence un petit peu à être en coulisses. C'est au niveau sécuritaire, c'est pas raisonnable d'avoir autant de gens. Peut-être qu'il faut avoir un peu à la baisse. Et qu'est-ce que ça change d'avoir 50 000 ou 80 000 personnes en moins ? Enfin, petit à petit, on commence à introduire l'idée que le nombre fixé au départ en décembre 2021 était trop élevé. Et donc, il faut le ramener un petit peu vers le bas. Donc, on a toujours des fourchettes qui succèdent de semaine en semaine, qui sont de plus en plus floues sur le nombre de personnes qu'il faut. À cet endroit-là, dans les rues de Paris.
Le jeudi 11 mai 2023, les places pour la cérémonie à destination des particuliers sont mises en vente. La billetterie pour les entreprises avait été ouverte quelques mois plus tôt. Quels sont les tarifs pour assister à ce spectacle, Sandrine Lefebvre ?
Alors, les tarifs varient entre 90 euros et ça peut monter jusqu'à 2700 euros. Et les places à 90 euros vont très rapidement s'arracher. Et 90 euros, c'est déjà un spectacle cher. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on est au pont d'Austerlitz. Donc, en gros, à ce niveau-là, on ne va pas voir grand-chose. Et il reste sur le site très rapidement les places à 1600 et à 2700 euros. Voilà, très très coûteux pour celui qui a envie d'y assister. Même si très vite, Paris 2024 va dire, certes, il y a des gens qui vont payer très cher. Mais il va également y avoir, on parle encore de 500 000 personnes qui pourront y assister gratuitement.
Concrètement, comment est organisée la répartition de ces places ?
Les moins chers se situent au niveau du pont d'Austerlitz, c'est-à-dire au départ de la parade, au départ des bateaux, des athlètes. Puis les places, celles à 2700 euros, sont situées autour de la Tour Eiffel, entre la Concorde et la Tour Eiffel. C'est la fin de la parade. C'est aussi là que va s'organiser la dernière partie du show, puisque la cérémonie d'ouverture n'a pas seulement lieu sur la scène, la dernière partie aura lieu au Trocadéro. Donc voilà, on est au cœur du spectacle final.
Quelques mois plus tard, le mardi 18 juillet, Sandrine Lefebvre, vous assistez à la première répétition du défilé d'une partie des bateaux sur la Seine. Racontez-nous comment ça se passe.
L'idée, c'est un petit peu de voir comment est-ce que 160 bateaux pourront circuler ensemble dans un temps donné le soir de la cérémonie. Donc là, ce matin-là, les bateaux sont à la queue leu-leu et puis chacun va un petit peu à son rythme. On teste aussi un petit peu côté visuel parce que l'idée de cette cérémonie, de cette parade, c'est qu'il y ait des sportifs sur les bateaux. Le souhait des équipes de Paris 2024, c'est que ces sportifs soient visibles par le grand public. Donc, ils ont choisi des bateaux qui sont à ciel ouvert pour que ceux qui seront massés le long des quais puissent apercevoir les sportifs et notamment le porte-drapeau. Donc, ce matin-là, il y a un volontaire de Paris 2024 qui joue le rôle du porte-drapeau. On essaie de voir un petit peu où est-ce qu'il faudra le positionner pour qu'il soit vu par le plus de monde possible.
Que donne ce test en conditions réelles ?
Alors, il y a des petites choses à améliorer sur le rythme parce que la volonté aussi des organisateurs, c'est de proposer une parade qui ne soit pas trop longue. Du coup, là, on essaye de chronométrer et on se dit qu'il faudra peut-être un petit peu aller plus vite, accélérer le rythme des bateaux pour qu'on soit dans les temps.
Quelques mois plus tard, Pauline Darvet, le 19 décembre, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, réclame moins de monde sur les quais le soir de la cérémonie. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ?
Alors, elle explique que la cérémonie d'ouverture doit débuter le plus tôt possible, donc idéalement à 19h30 pour se terminer à 22h30 maximum. Et elle dit aussi que la jauge ne doit pas dépasser 400 000 spectateurs, justement pour permettre leur bonne évacuation, parce qu'elle rappelle qu'il y a beaucoup de stations qui seront fermées à proximité de la Seine, justement pour éviter les cohues. Et si le public doit être évacué tard dans la nuit, ça va nécessairement avoir un impact sur l'organisation des transports le lendemain aussi.
Le lendemain, Romain Baheux, Emmanuel Macron est interrogé sur France 5 à propos de cette cérémonie d'ouverture et il évoque pour la première fois la possibilité d'un plan B.
Tout est fait pour que ce soit prêt, en termes de sécurité, en termes d'organisation et autres. Et comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc.
Le plan B, c'était un peu le tabou jusqu'à présent. Concrètement, le plan B, ça veut dire sortir cette cérémonie d'ouverture de la Seine, annuler, on va dire, toute la partie fastueuse et inédite pour la transporter ailleurs. Emmanuel Macron n'explique pas exactement ce qu'est le plan B, ce qu'est le plan C, mais il admet qu'en cas de risque terroriste accru, trop important. Peut-être que la chose devrait être réaménagée, peut-être qu'il faudrait la fermer au public en partie, peut-être qu'il faudrait la limiter à certaines parties, peut-être par exemple juste au Trocadéro. Mais en tout cas, l'option est sur la table. Dans les faits, ils ne veulent pas en arriver jusque-là. Le but, qui est toujours répété et répété, c'est de dire on maintient cette cérémonie sur la scène. Peut-être en l'aménageant, peut-être en réduisant la jauge, mais l'idée est de maintenir cette cérémonie sur la scène.
Cette année, le 31 janvier, dans une interview à Télématin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce que le nombre maximum de spectateurs aux abords des quais est encore une fois revu à la baisse.
Mais aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture, elle est comme elle était prévue, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes qui regarderont cette cérémonie d'ouverture sur la Seine.
Elle est comme elle était prévue, mais à chaque fois que vous venez nous voir, il y a 100 000 de moins. On est parti de 500 000, 400 000, 300 000.
Non, c'est assez simple.
Il évoque le chiffre de 320 000 personnes en tout. On a quasiment divisé par deux le chiffre de 600 000 qui est à la base. On ne réduit pas le nombre de personnes sur les quais bas. Ça reste autour des 100 000 personnes, comme c'est prévu depuis le début. Là où on joue, c'est qu'on diminue très sévèrement le nombre de personnes qui viennent gratuitement, donc sur la partie supérieure des quais de la Seine. Et donc là, eh bien, on les divise presque par 3 pour arriver donc en tout à autour de 200 000 personnes présentes sur les quais.
Deux semaines plus tard, Pauline Darvet, le 14 février, Emmanuel Macron décide que les boîtes des bouquinistes qui sont positionnées le long de la Seine ne seront pas déplacées pour la cérémonie. Pourquoi il a fallu que le président tranche lui-même cette question ?
Alors, il était prévu qu'environ la moitié des boîtes vertes des bouquinistes, donc environ 430 boîtes sur un peu plus de 900, devaient être déplacées. Alors, c'était une décision de la préfecture de police qui s'appuyait à la fois sur un risque sécuritaire. On pourrait, par exemple, cacher des armes dans ces boîtes. Mais il y avait aussi une question de place et de commodité pour les spectateurs, puisque ces boîtes sont vraiment situées le long de la Seine. Et donc, elles auraient pu empêcher les spectateurs de la cérémonie d'ouverture, notamment, de bien apprécier le spectacle. Et dès le départ, quand elle a été annoncée, cette mesure a tout de suite fait polémique et elle a vraiment mis en colère les bouquinistes, alors qu'ils considèrent qu'ils sont un peu l'âme de Paris. Et puis, il y avait aussi des inquiétudes sur la logistique avec le démontage des boîtes, parfois vieillissantes, donc avec une crainte que ça n'endommage ces boîtes-là.
On le rappelle, à ce moment-là, la dernière jauge fixée par le ministère de l'Intérieur s'élève à 200 000 personnes sur les quais hauts et 100 000 en bas, 300 000 environ au total. Est-ce que cette nouvelle décision sur le maintien des bouquinistes doit avoir un impact sur cette jauge ?
Mais c'est toute la question à ce moment-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on interroge Pierre Rabadan, qui est donc l'adjoint au sport de la ville de Paris, il nous répond qu'il espère que ces chiffres-là prennent bien en compte le maintien des boîtes des bouquinistes et que la jauge qui a déjà été divisée par deux par rapport à ce qui avait été envisagé au départ, il espère que la jauge ne va pas chuter encore davantage.
Romain Baheu, le vendredi 5 mars, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait une annonce concernant les places gratuites sur les quais hauts de la Seine le soir de la cérémonie.
Eh bien, il dit que les places resteront gratuites, mais elles seront sur invitation. C'est-à-dire, concrètement, l'idée à la base, c'était que vous, moi, n'importe qui, pouvions s'inscrire pour prétendre à l'une de ces places gratuites. Là, on oublie ça. L'idée maintenant, c'est que ce qu'ils appellent des tiers de confiance, en gros, c'est une collectivité, une mairie, le comité d'organisation des JO, qui va dire « j'invite telle et telle catégorie de personnes à cette soirée ». Donc, on renverse la vapeur. Au lieu d'une fête populaire ouverte à tous, auquel tout le monde peut postuler, et bien maintenant, c'est les organisateurs qui vont décider oui ou non d'inviter telle ou telle personne.
Sandrine Lefebvre, vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites ?
Alors qu'on n'est clairement plus dans la cérémonie populaire vendue depuis le début par Paris 2024. Puisque vraiment, au tout début de l'histoire, Paris 2024 avait même imaginé 1 million de personnes qui pourraient venir. Après, on est arrivé à 500 000 personnes gratuitement. Mais voilà, au départ, c'était des chiffres totalement dingues qui étaient donnés. Et surtout, la possibilité offerte à tout le monde de pouvoir assister à cette cérémonie. Et finalement, ils ont été rattrapés par la réalité. Et la réalité, c'est la sécurité. En faisant la cérémonie sur invitation, l'idée, c'est bien de contrôler qui va venir au bord de la Seine ce soir-là.
Le 20 mars, dans un papier publié dans Le Parisien, vous expliquez que la répartition de ces places gratuites entre les collectivités vire au casse-tête.
Effectivement, parce que toutes ces collectivités qu'on appelle aussi les parties prenantes des Jeux, donc il y a la ville de Paris, il y a le comité d'organisation des Jeux, il y a l'État, et puis il y a aussi le département de Seine-Saint-Denis et toutes ces villes qui ont des sites de compétition. Toutes ces parties prenantes sont autour de la table et ont envie d'avoir des places pour la cérémonie. C'est un casse-tête parce que le principe général de ces invitations, c'est qu'elles aillent à des gens qui sont impactés par les Jeux. Donc on pense aux commerçants, on pense aussi à ceux qui ont subi les travaux depuis plusieurs années. Et puis on a envie aussi de faire plaisir aux jeunes, que ces places permettent aussi à des jeunes d'assister à une cérémonie extraordinaire. Et là, c'est un petit peu le casse-tête parce que tout le monde a envie de faire plaisir à ses habitants. Tout le monde se bat pour arracher le maximum de places.
Pauline Darvet, il y a aussi des milliers de personnes qui ont la chance d'habiter près de la Seine et qui pourront donc voir la cérémonie depuis leur balcon. Est-ce qu'une réglementation particulière est prévue ?
Non, justement, et d'ailleurs c'est ce qui inquiète, parce qu'il y a cette crainte que les gens s'entassent sur les balcons au moment de la cérémonie et que cette surfréquentation des balcons engendre des accidents. Et il y a d'ailleurs la Fédération nationale de l'immobilier du Grand Paris qui a diffusé un avertissement. Le but de cette fédération, c'est de sensibiliser ses adhérents, donc qui sont principalement des syndics de copropriété, et de leur dire « faites attention, vérifiez les balcons et les garde-corps, signalez les anomalies et veillez à bien prévenir les habitants qu'il ne faudra pas les suroccuper pendant la cérémonie ».
Romain Baheu, à la fin du mois de mars, vous êtes en reportage avec des agents du RAID, une unité d'élite de la police qui assurera la sécurité de la cérémonie aux côtés de la BRI et du GIGN. Comment est-ce qu'ils se préparent le jour où vous les suivez ?
Ils simulent une prise d'otage sur un bateau, sur la Seine, prêté pour l'occasion. Donc concrètement, ils sont sur des Zodiacs à côté de ce bateau. Il faut imaginer qu'on est un vendredi après-midi dans Paris, qu'il y a la circulation normale tout autour et vous avez une trentaine d'hommes cagoulés, armés, qui donc prennent d'assaut ce bateau. L'idée c'est quoi ? C'est que concrètement, si le jour de la cérémonie d'ouverture, un bateau est détourné, ou il y a une prise d'otage, ou il y a une attaque sur le bateau, c'est comment est-ce que cette unité d'élite va réagir à cette situation donnée.
Plus généralement, Pauline Darvet, c'est le dispositif de sécurité entier ce soir-là qui sera totalement inédit.
Sur les toits comme sous l'eau, les forces de l'ordre vont vraiment quadriller le moindre centimètre. Il y a 45 000 membres des forces de l'ordre qui seront déployés dans toute l'Île-de-France, avec plus de 100 plongeurs démineurs, mais aussi des équipes cynophiles ou encore 35 bateaux de sécurisation et de secours. Il y aura aussi le RAID qui sera installé sur les toits des immeubles parisiens. Et puis, il y a cette mesure historique, à savoir l'arrêt de la circulation aérienne, donc des aéroports Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Paris-Beauvais, donc dans un périmètre de 150 km autour de Paris. À partir de 19h, il n'y aura plus du tout d'avions dans le ciel. Et puis, pour compléter ce dispositif, il y aura aussi des équipes internationales qui seront mobilisées en renfort, à savoir 2500 policiers et gendarmes qui viendront de pays étrangers, pour s'occuper eux aussi de la sécurité des spectateurs et des athlètes.
Et ce soir-là, une grande partie de la ville sera piétonne.
Oui, des périmètres de sécurité ont été définis. Tous les abords de la Seine, mais aussi les Champs-Élysées jusqu'à la Porte Maillot, toute cette partie-là sera totalement interdite à la circulation motorisée. Et donc, seuls les piétons y seront admis.
En ce qui concerne les ponts par-dessus la Seine qui doivent accueillir pour certains des spectateurs, est-ce qu'ils vont tenir le coup ?
Alors justement, la question de la fragilité des ponts parisiens s'est récemment invitée dans le débat public, puisque le 31 janvier, c'est un bateau de croisière qui a heurté le pont de Sully, qui l'a donc vraiment fragilisé, endommagé. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des ouvrages qui, pour la plupart, sont très anciens. Certains datent du XVIe siècle et ils n'ont pas l'habitude de recevoir autant de public. Pour les sécuriser, il y a actuellement un travail d'examen de ces différents ponts. Ce sont des expertises qui sont réalisées par les architectes des bâtiments de France. Et normalement, tous ces ponts auront été inspectés avant le début des Jeux Olympiques.
Tous les habitants et les commerçants qui vivent et travaillent dans un large périmètre autour de la Seine, ainsi que leurs invités, devront s'enregistrer sur une plateforme à partir du 10 mai pour récupérer un QR code, indispensable s'ils veulent se déplacer dans ces secteurs où la circulation sera très limitée à partir d'une semaine avant la cérémonie. Romain Baheu, de son côté, la mairie de Paris va elle aussi déployer des moyens inédits.
Oui, parce qu'on parle quand même du coup en l'état d'accueillir gratuitement, donc sur la partie dont la mairie de Paris a la charge, donc la partie supérieure des quais, plus de 220 000 personnes, donc c'est quand même énorme. Il faut penser à des choses toutes bêtes, fin juillet à Paris il peut faire chaud, donc les gens peuvent boire beaucoup, donc ont peut-être énormément envie d'aller aux toilettes. La mairie de Paris a prévu de déployer 1400 toilettes différentes à cette occasion, donc il faut penser à tout.
Sandrine Lefebvre, projetons-nous maintenant à cette date du vendredi 26 juillet 2024. Il est 19h30 précisément. Racontez-nous la cérémonie telle qu'elle doit normalement se dérouler.
Alors les sportifs, eux, seront là depuis bien plus longtemps puisqu'ils vont quitter le village olympique à Saint-Denis en milieu d'après-midi pour regagner le pont d'Austerlitz. C'est de là que partiront les 160 bateaux, puis la parade va se mettre en route. Tout ça sera accompagné de différents tableaux sur lesquels travaillent actuellement Thierry Reboul, Thomas Joly et toutes leurs équipes. Il imagine des acrobates, il imagine des gens sur les toits, il imagine un spectacle grandiose sur les ponts et sur tous les quais de Seine. Et ensuite, la fin du spectacle va se dérouler sur le Trocadéro, où tous les officiels seront installés, où les sportifs, quand ils descendront des différents bateaux, viendront prendre place. Et ce sera le temps final, celui aussi de l'allumage de la vasque, dont on parle beaucoup, parce que ce qui lance les Jeux, c'est lorsque la flamme olympique arrive dans cette vasque. On commence tous à se projeter sur le dernier relayeur pour savoir un petit peu qui, le 26 juillet 2024, allumera la vasque olympique et lancera officiellement les Jeux olympiques.
Côté mise en scène, vous l'avez dit, on ne sait pas encore quels sont les tableaux imaginés par Thomas Joly ni les artistes qui devraient se produire pendant le show. On sait juste que la chanteuse Aya Nakamura est susceptible d'être invitée à chanter lors de cette cérémonie. Quoi qu'il en soit, ce sera du très grand spectacle.
Cette cérémonie va raconter quelque chose de la France. Donc on imagine des références à l'histoire, on imagine des références à la Révolution française, parce qu'elle est très présente dans les différents thèmes de Paris 2024, avec notamment la mascotte qui représente un bonnet phrygien. Ce sera quelque chose de jamais vu, quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui restera sans aucun doute dans l'histoire.
Merci à Sandrine Lefebvre, Romain Baheu et Pauline Darvet. Si les Jeux Olympiques vous intéressent, écoutez Code Source qui consacre régulièrement des épisodes thématiques autour de l'organisation de ces Jeux et retrouvez chaque mercredi un nouvel épisode de notre podcast Le Sacre. Un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques et Paralympiques se confie au micro d'Anne-Laure Bonnet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à nous mettre en avant avec des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.